Allez, c'est parti. Du coup, les différents formats. Déjà, simplement, vous pensez à quel format?
Ouais.
Pour vous, ça évoque quoi, les formats?
Je pensais à ça, c'était quoi?
Bah, c'est pas la question que je me pose, c'est que parce que même si on peut avoir une ligne comme ça, une idée, parce que ce dont on parlait hier, est-ce que le journaliste intervient ou pas? Est-ce que c'est un témoignage anonyme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a un peu une narration?
Oui, il y a des codes, en fait qui correspondent à chaque format. Alors les formats c'est super varié. En gros, il y a il y a le brut, il y a les faits. Typiquement les infos qu'on a sur le flash info, les brèves, où on va avoir il s'est passé ceci, cela. On a une technique en journalisme, c'est les 5, vous connaissez peut-être, les 5 W, qui quand, who, why, when, where, why, how, on rajoutait en plus parce que c'est le comment, donc qui, quand, quoi, comment, pourquoi, le but, le journaliste, il doit répondre aux 5 questions. C'est-à-dire que si t'as pas les réponses à ces questions. Et ça, c'est la base. Et donc, une brève, comme une brève en journalisme écrit, un flash en radio ou en télé, ça va être un fait qui est présenté brut, comme ça, avec la réponse qu'est-ce qui s'est passé, quand, pourquoi, comment, qui est en jeu. Ça, c'est le cœur de l'info, on va dire. Et là, zéro commentaire, l'effet brut. Dans un papier, que ce soit un papier radio, un papier écrit. Alors, ce qu'on appelle un papier, c'est on va présenter les faits, mais ça va être de façon un peu plus étayée. C'est-à-dire qu'on va argumenter en apportant des éléments d'information qui vont renforcer l'information principale qu'on a donnée. Donc, on a donné le cœur de l'info et on va le nourrir avec des témoignages de spécialistes, des témoignages de témoins, des références à des textes de loi, à des faits passés... Ça va venir renforcer l'information et la mettre un peu en contexte pour qu'on puisse bien la comprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle un papier, d'accord ? Et où on va mélanger un petit peu des témoignages de gens, de l'apport analytique et de l'information froide. Et alors, ça, c'est pareil, que ce soit en papier ou en radio ou en télé. Après, on a le reportage. Le reportage, on est sur le terrain et on va raconter ce qui se passe. Mais là, en fait, on va capter l'information avec ses 5 sens. C'est-à-dire que là, le journaliste peut se positionner un petit peu, non pas comme personne qui va relayer une opinion, mais comme personne qui va relayer l'expérience de ce qu'elle voit, de ce qu'elle expérimente sur le terrain. Donc là, on va écouter des gens qu'on va interviewer en direct, mais on va écouter aussi ce qui se passe autour de nous. On va capter des conversations. On va raconter des bruits. Par exemple, si je fais un truc basique, je fais un reportage dans une boulangerie, je vais raconter le bruit du four, du frigo qui fait bzzz, peut-être du tapis qui roule des trucs. Je vais raconter les odeurs. Donc je vais voir aussi avec mon nez. Je vais aussi capter de l'information avec mon nez. Donc avec mes oreilles, parce que je vais avoir le bruit. Avec ma vue, je vais aussi décrire ce qui se passe autour de moi. Et là, pareil, je vais mélanger tous ces éléments d'information. Donc avec témoignage direct, recueil d'infos sur le terrain en visualisant ce qui se passe. Ça peut être nourri aussi après d'analyses de témoignages d'experts qu'on va avoir rencontrés sur le terrain. Mais là, c'est de l'info terrain. Mais qu'on relate vraiment... Il faut se dire, le reportage, c'est les 5 sens qui sont en action, quoi. L'info, elle est captée par tous les... en 360. Et alors, en radio, c'est pas... On ne va pas avoir l'olfactif, mais on a le droit d'avoir de la voix off, justement. Et quand vous écoutez des reportages, il y en a pas mal maintenant, des podcasts. Moi, les podcasts que j'écoute le plus, c'est les reportages sur France Culture, quoi. Ils font souvent des thématiques, par exemple en ce moment l'Ukraine, et les journalistes la racontent. Et alors, des fois, ils racontent le backstage, ils racontent les coulisses de comment ils ont fait le reportage et tout. Mais des fois, c'est du reportage brut aussi, où on a tout ça. Le journaliste, il raconte, il dit, voilà, j'arrive sur le terrain, je vois les décombres, machin me reçoit sur les ruines qui restent de sa maison, tout est cassé, il n'y a plus rien. Ah, ben, il y a une casserole qui traîne au milieu. Lui, il a les larmes qui montent aux yeux parce qu'il n'est pas bien. Et donc, on te décrit à la fois l'environnement, les personnes, Après, on leur donne la parole. Tu vois, en radio aussi, on est capable là, de décrire tout ça, tout ce qu'on capte. Donc là, la différence avec avec le documentaire, c'est que le documentaire, il va faire ça un peu, mais il va être... Il va y avoir une implication plus forte de l'auteur, en fait. Un documentaire, on rentre déjà dans une démarche d'auteur, où il y a une intention. On n'est pas juste dans donner l'info, on a un angle qui est un peu plus fort, enfin, qui est plus personnel, en gros.
Il y a un point de vue.
Ouais, voilà, il y a un point de vue. Et pareil, après, la narration va être un peu similaire à celle du reportage, où elle va se nourrir de plein de choses, ça va être super riche, mais il y a un point de vue, ouais. C'est un peu ténu, hein, la différence, mais voilà. Et après, donc il y a un point de vue. Alors, un truc qui est super compliqué en journalisme, c'est l'angle à faire comprendre. Parce que l'angle, c'est pas la même chose qu'un point de vue. L'angle, c'est effectivement la façon dont tu regardes un événement, une information. Tu vas dire, je vais la prendre par ce bout-ci. Alors que le point de vue, tu vas dire, donc je regarde une info dans ce sens-là, mais je vais me positionner par rapport à ça en tant qu'auteur, c'est-à-dire que je veux faire passer une expérience, une émotion. Enfin, souvent, il y a une intention plus personnelle, quoi, du narrateur. Alors que le reportage, on se dit, ben, je vais montrer une information en m'attachant à cet angle-là, à cette problématique-là. On peut dire que c'est une problématique qu'on va regarder, un thème qu'on va regarder. C'est par quel bout on va s'y intéresser. Par exemple, les 20 ans de la médiathèque, je peux les traiter sous plein d'angles différents. Je vais prendre l'angle historique. Je vais me dire, tiens, à quel moment on a décidé de faire une médiathèque, pourquoi, comment, qui, avec quel budget, comment ça s'est fait, quelle était l'intention derrière. Alors ça peut être l'intention culturelle. Je peux faire un papier économique en disant, est-ce que les moyens, ils ont évolué depuis 20 ans, est-ce que ça, combien ça coûte de gérer une médiathèque, est-ce que du coup les frais matériels sont plus importants. Je peux regarder du point de vue du public, je peux faire un angle culturel en me disant, tiens, la pratique culturelle, comment elle a évolué depuis 20 ans, qu'est-ce que vient chercher le public, qu'est-ce qu'on lui offre. Donc ça, voilà, c'est des différences d'angle. Et là, je ne vais pas m'impliquer personnellement. Je vais pas. Par contre, je peux décider de faire un documentaire en me disant, je sais que ça vous intéresse beaucoup, les usagers de la médiathèque. C'est assez rigolo, à la médiathèque, qui c'est qui vient? Est-ce qu'il n'y a que des amateurs de bouquins? Comment ça se passe, la relation avec les personnels? Et là, on rentre dans du plus humain, où on va mettre un peu plus de, j'allais dire, de sentiments, ouais, où je vais pouvoir me baser sur mon propre... Souvent, on se base sur son propre ressenti quand on fait du docu. Ça part d'un vécu de l'auteur. Et donc, je vais me dire sur mon point de vue, ben voilà, moi, je fréquente les bibliothèques depuis 20 ans, je vois que le public, il évolue. Tiens, où je viens au pôle actu, je trouve qu'il y a des gens, tiens, qui n'ont pas l'air trop de... Je regarde les journaux, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'ils font là? Je discute avec eux, leur vie m'intéresse. C'est comme ça que je suis arrivée à m'intéresser à cette population-là. Et là, c'est une démarche qui est vraiment plus perso, quoi. Je ne sais pas si ça répond.
Mmh. Voilà. Il y a une question aussi que je me pose. C'est sur... Parce que souvent, les podcasts, une des signatures, une des clés de l'identité des podcasts, en fait, bon, c'est les thèmes, bon, un ton, un angle, mais, et c'est aussi... Souvent, c'est des formes très marquées, quoi. Du style, mettons, transfert, il y a juste les gens qui parlent, comme ça. Et toutes les questions sont effacées, et tout est centré sur la personne qui a raconté son histoire. Mmh. Et parfois, il y a des formes qui sont plus mixtes, quoi. C'est-à-dire, il y a un peu d'entretien, un peu d'interview, un peu ceci, un peu... Et nous, dans notre contexte, on n'est pas des pros, est-ce qu'il vaut mieux miser sur une... Est-ce que c'est plus simple, en fait, de se donner comme des liens qui libèrent, entre guillemets, c'est-à-dire une forme très... On se dit, voilà, nous, on va faire, mais donc, je sais pas quoi, que de l'entretien. On fait que du témoignage et on va se poser des questions. Mmh. Ou est-ce qu'on se lance dans des choses plus...
Ouais. Moi, je pense qu'il faut être... L'intérêt du podcast, c'est que c'est justement libre. Enfin, c'est vraiment le truc où tu peux... T'as une... En fait, ça... le podcast, c'est chouette parce que tu inventes la forme qui va porter ton propos, quoi. Mm-hmm. Et qui va te... C'est plus du documentaire. Enfin, non, il y a du reportage aussi. Mais c'est tellement... Ça prend toutes les formes, en fait, le podcast. Ça dépend de ton intention. Par contre, faut avoir une intention, quoi. Il faut être clair sur son angle et sur son intention au départ, sinon ça va partir dans tous les sens et vous n'allez pas y arriver. C'est-à-dire, c'est comme bon, sur la carte postale sonore, on y est arrivé, quoi. Mais le premier truc que j'ai demandé à ma acolyte, c'est, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux raconter? Elle me dit, oh, je sais pas, j'ai pensé à ça comme son, à ça comme son, à ça comme son. Comme vous avez fait vous sur... Non, qui c'était? Ah oui, vous êtes parti à la chasse au son sans savoir... juste avoir une envie de regarder. Mais voilà, c'est le, où là on peut... Mais par exemple, sur le micro-trottoir, enfin, pas sur le micro-trottoir, parce que le micro-trottoir, par exemple, on part avec une question. On ne va pas juste demander aux gens, peut-être tu as quelque chose à raconter. Après, ton micro-trottoir, tu peux l'agrémenter de sons, si tu as envie. Tu peux l'introduire. Souvent, d'ailleurs, c'est introduit. Il faut le contextualiser. Parce que tu as une intention derrière. Tu sais ce que tu veux... Le thème sur lequel tu veux interroger les gens, c'est une question. Et après, tu vas recueillir différents points de vue sur une question. Mais la forme, elle peut être... Là, sur un simple micro-trottoir, hein, on peut la varier. Tu peux l'attaquer avec une voix off qui va dire, voilà, on a voulu savoir ce que les usagers pensent de ceci, de cela. Tu peux l'attaquer juste par un témoignage d'usager ou un son capté parce que tu vas voir qu'il se passe, tu vas partir d'un truc qui se passe et tu vas faire réagir les gens. Enfin, ça peut être... là, la créativité, l'intérêt du podcast, c'est que c'est super créatif. Par contre, il faut l'anglais, quoi. Enfin, il faut qu'à chaque fois... Et il va y avoir dans le podcast... Enfin, on peut mélanger plein de choses dans un podcast. C'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. Parce qu'on va mélanger... On va ponctuer nos podcasts, par exemple, de capsules sur les 20 ans, qui vont venir au milieu de reportages sur une thématique pour rythmer, pour casser, en fait, le rythme du podcast, parce qu'en 20 minutes, c'est pas mal d'avoir des respirations. Mais par exemple, dans le reportage lui-même, c'est un peu toi qui va... Enfin, c'est un peu nous, parce que c'est le collectif, qui allons décider de quoi on va le nourrir. Est-ce que, par exemple, le reportage sur le patrimoine, ça va être de l'interview de quelqu'un qui gère le fonds patrimonial? Est-ce que ça va être de l'interview d'usagers? Est-ce qu'on va y mêler nos sensations, peut-être? Parce que quand nous, on va découvrir le fonds conservatoire, peut-être qu'on aura des choses à en raconter. Donc ça, c'est des choses... Tu vois, ça peut prendre diverses... Ça peut être nourri de plein de choses. Ben, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut, en fait, on a l'impression qu'on va y aller puis qu'on va voir, mais non, il faut y réfléchir avant. Tout se construit avant, en fait. Et le travail du journaliste, et votre boulot aussi, c'est qu'avant d'y aller, on n'y va pas la fleur au fusil, on se documente, on sait de quoi on va parler, on sait quelles questions on va poser, et en gros, presque, on sait ce qu'on veut voir et qu'est-ce qu'on veut raconter. Après, il faut, en fait, quand tu pars, il faut déjà avoir une trame qui peut évoluer parce qu'on n'est pas là pour se... Je ne suis pas là, moi... Sinon, ce n'est pas la peine. Je ne pars pas en reportage ou je ne vais pas pêcher de l'info si je suis sûre de tout connaître et de tout savoir. Mais je me suis documentée avant. Donc, j'ai une idée de mon sujet. Je sais quelles infos me manquent ou qu'est-ce que je veux vérifier. Quels éléments supplémentaires j'ai besoin pour compléter l'information que j'ai, pour la renforcer. C'est pour ça que parfois on va chercher du reportage. Et... Alors, il faut faire attention, un reportage, souvent on dit « Ouais, mais le journaliste, il t'a dit, il fait dire ce qu'il veut. » parce que justement, on cherche un témoignage qui va étayer une information qu'on a déjà et on veut que la personne nous dise ceci, cela. Mais si elle ne nous le dit pas, elle ne nous dit pas ou qu'elle nous dit autre chose, normalement, si tu fais bien ton boulot, tu prends l'information. Tu ne dictes pas ce que la personne a à te dire. Après, c'est vrai qu'on cherche à leur faire dire des choses parce qu'on veut qu'ils aillent, comme on a un angle à tenir, si je veux qu'ils me parlent de ce qu'ils viennent chercher, de quel livre ils viennent lire à la bibliothèque, j'ai pas envie qu'ils me parlent de son déjeuner le matin. Donc, c'est en ça qu'on guide, que l'interview, ça se guide, quoi, et que les questions, ils se préparent à l'avance, et qu'il faut qu'on sache déjà quel type de réponse, enfin, quel type d'infos on veut avoir. Donc, qu'on connaisse un peu notre sujet, quoi.
Après, rassurez-vous, c'est justement, moi, je te rejoins, la forme podcast est très libre, et elle est de plus en plus, on a de plus en plus de liberté. Il y a beaucoup de choses qui sont aussi racontées par le sensoriel, par le son, et après, il y a encore une grande marge de manœuvre, vous l'avez vu, au moment du montage. Et le montage, c'est aussi un moment où l'intégrité est très importante, parce qu'en fait, quand on a un petit niveau, on peut faire flip-flap, tu peux te faire dire n'importe qui. Et c'est là où l'intégrité, elle se joue à tous les moments. C'est un peu ta posture, en fait. Qu'importe qu'on soit journaliste ou pas. Moi, je pense que l'important, c'est la posture, la manière dont tu tends le micro vers l'autre. Est-ce que tu vas, est-ce que tu viens... Qu'est-ce que tu as envie, c'est cette rencontre-là qui est, c'est un prétexte, le micro, en fait, à la rencontre, à faire parler l'autre. Alors, c'est ça, et ça marche.
Ouais, c'est étonnant. C'est étonnant. Vous allez voir, les gens, ils parlent. Ils adorent ça.
Ouais. Et donc, c'est un peu une psycho. Des fois, moi, j'ai un peu de tout.
Ah ouais, ouais, ouais.
Et donc, voilà, c'est une fois que les vannes, qu'on ouvre les vannes, on peut avoir de la matière, d'où l'angle après.
Ouais.
Parce que quand on se retrouve avec, ah, il m'a fait 20 minutes, cool.
C'est ça.
Oh là 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 là, derrière, pour monter, quand on sait qu'on a un format, justement, de 20 minutes, et qu'il n'y a pas que 1000 personnes dedans, bah, il va falloir trier après. Et en fait, moi, je trouve que le plus difficile en podcast, c'est d'aller vers le court. C'est pour ça que je vous fais monter court. Vous allez voir, c'est pour ça que je vous fais faire des formats courts. Parce que vraiment, rapidement, avec les enregistreurs, on va avoir envie de faire des interviews fleuves. Et le moment est génial avec la personne. Mais pour l'auditeur derrière, 20 minutes, par exemple, ça peut être bien. Alors, ça dépend qui t'as. Si t'as quelqu'un qui a une expérience folle, enfin, je sais pas, si c'est Thomas Pesquet, peut-être tu le fais 20 minutes. Mais bon, ça dépend. Il faut voir si t'as du fond, quoi. C'est pour tenir les gens pendant 20 minutes avec une seule personne en monologue. Et après, sur les manières de monter, il y a des modes. C'est-à-dire que pendant longtemps, on en parlait hier, le journaliste s'effaçait complètement. Maintenant, il revient un peu, on le retrouve un peu plus, ou il parle à la première personne. Moi, quand j'ai démarré la radio, ça ne se faisait
jamais.
Bon, et maintenant, c'est cool, je trouve ça intéressant. Et après sur les formats, donc moi j'en ai listé quelques-uns, je vous ai mis ce document là, mais je me rends compte qu'il faut que je le mette à jour parce que ça a un petit peu changé. Donc on a parlé de la brève, qui est vraiment l'information de base. La chronique, donc c'est quelque chose, on va la voir nous dans notre... Parce qu'on a déjà travaillé cette trame quand on a fait la réunion ensemble. Il y a maintenant, dans votre document, vous avez vu cette trame avec la bulle sur les 20 ans, ça c'est notre trame en fait déjà. Donc il y a la chronique, c'est ces petits sujets qui vont revenir régulièrement. Alors l'exemple à la radio, ça peut être les sorties cinéma, la rubrique jardinage, l'agenda même l'horoscope, voilà, ça peut être des choses comme ça. Ensuite le micro-trottoir, alors on va en parler juste après, le reportage, tu en as parlé, le débat contradictoire qui existe aussi en radio, alors ça nous on va pas en faire trop pour le coup, mais peut-être que d'ici, avec le studio, une fois que vous serez aguerri, vous aurez envie de faire, hey, un débat contradictoire, allez, tu vous ferais le médiateur, hein, voilà.
C'est pareil, la modération, c'est...
Ah bah la modération, c'est un job. Hein.
Oui, c'est ça, ça s'apprend quand même.
Oui. Pareil, parce que...
Il faut maîtriser le sujet.
Aller, quoi. Et puis, alors là, c'est une certaine... Il faut aussi apprendre... Moi, j'ai un mal de chien comme ça, mais j'ai commencé comme ça, à couper la personne. Les gens sont pas... Donc, il faut réussir à couper la personne, distribuer la parole et tout. L'agenda, c'est quand on a quelque chose, quand on veut annoncer les événements, voilà. Et les créations sonores, qui prennent plein de formes, le feuilleton radiophonique, mais également aujourd'hui les documentaires, qui reprennent tous les codes du documentaire, et hop, qui font dévier la réalité. Et donc ça, c'est des choses que... C'est plein de formats différents. Mais je vous donnerai ce texte-là, ce petit exemple.
Après, t'as le... Donc, j'en ai pas parlé parce que je pensais que vous auriez une question. La différence entre la chronique et l'éditorial.
Ah oui.
Quelle est la différence?
Donc, dans une chronique, on parle d'une info, on peut se positionner. Alors, si c'est une chronique, il y a des chroniques dans lesquelles on donne son avis, par exemple les chroniques culturelles, les critiques. Effectivement, le journaliste se positionne et il dit j'ai aimé, j'ai pas aimé. Pourquoi ? Un édito, donc là c'est le journaliste qui se positionne sur un événement, enfin sur un fait. Un édito, en fait, c'est quelque chose en fait qui va engager le journalisme et qui culturellement, éthiquement, engage toute la direction, enfin toute la rédaction, quoi. C'est la parole officielle du journal ou du média. Et donc c'est une parole qui est assumée collectivement et en général c'est des gens, c'est pas n'importe qui fait un édito, quoi. C'est le chef de rubrique, c'est le rédac chef, c'est quand même quelqu'un justement qui représente un canard. Et après, ceci dit, la frontière est ténue entre la chronique, le billet, l'édito, ça va être, on va se positionner différemment. Mais souvent, les gens même qui font un billet sur un billet politique, c'est des gens qui ont un certain poids dans la rédaction, enfin en tout cas qui ont une expertise reconnue. C'est un truc d'expert reconnu qui peut s'engager au nom du journal ou de la radio, etc. Il y a moins d'enjeux que sur la chronique.
Il y a le billet d'humoriste quand même, qui pour le coup est plus ou moins bien assumé par l'ensemble de la rédaction pour le coup.
Mais en plus, ça c'est pareil, c'est des pratiques qui se sont vachement démultipliées ces dernières années, quoi. Puisqu'on est de plus en plus peu dans la réaction, l'opinion. C'est quand même une des caractéristiques des médias chauds aujourd'hui, quoi. C'est qu'il faut réagir et il faut avoir une opinion. Donc les experts et les bizutistes sont convoqués à tout va, quoi. Mais normalement, c'est quand même une parole assumée. On n'a pas parlé du portrait. Et le portrait, c'est quelque chose de sympa aussi. Donc c'est, ça se fait aussi bien en radio qu'en télé, qu'à l'écrit, où on veut présenter une personne. Et ça, c'est intéressant aussi, moi, je trouve, parce que le portrait, il peut se faire par une interview directe, mais il peut se faire aussi en allant... On le nourrit en allant pareil. En fait, notre boulot, c'est de chercher l'info. Donc, quand on fait le portrait de quelqu'un, on ne va pas juste se contenter de l'interview. On va aller voir ce que disent ses proches, ce que disent ses détracteurs, ce qu'il a fait. Et comme ça, on va nourrir après le portrait qu'on va faire de lui ou d'elle. Et ça va permettre de poser des questions, d'essayer de rentrer un peu dans l'intimité, ou alors sa spécialité si on veut faire un portrait professionnel. Et du coup, ça peut se nourrir pareil, ça peut prendre des formes diverses. Ça peut être de l'interview directe, ça peut être je fais parler les gens, ça peut être d'un truc sonore en reprenant des paroles qu'il ou elle a dites, en faisant décrire ses œuvres. Si c'est de la... enfin, ça peut prendre plein de formes. Mince, j'avais dit un truc qui m'avait fait réagir, j'ai oublié. Non, c'était billet édito.
Moi, j'ai une question, mais c'est peut-être pas maintenant. Sur le fait de faire parler les gens, là, vous disiez que les gens étaient hyper bavards. Moi, je trouve... Enfin, moi, au départ, ça me bloque beaucoup. Alors, je suis étonnée que vous disiez ça, d'une part. Et ensuite, est-ce que quand on est devant un micro... Alors, peut-être que ça, ça ressemble pas trop à un micro. On n'a pas tendance à avoir une parole qui est peut-être moins intéressante ou qui essaye de se rendre intéressante et qui, donc, justement, ne l'est plus beaucoup. Ou est-ce qu'il faut les faire parler longtemps pour que, avoir une perle ou...
Ouais, ça dépend des gens et là ça va
être. C'est vraiment un truc personnel, d'accord, il n'y a pas de règle.
C'est vrai que c'est une rencontre qui est chouette dans mon métier, que tu sois journaliste ou pas, enfin que tu fasses. Ça, c'est d'aller à la rencontre des gens et de les faire parler, de leur faire raconter des trucs. Mais par contre, l'interview, c'est un art un peu difficile parce qu'il faut, encore une fois, il faut savoir où tu veux aller, mais tout en laissant la place à l'imprévu, aux trucs qui vont sortir. Ça demande d'être un peu psychologue, quoi.
Et puis, en fait, si tu veux que les gens ils parlent, il faut bien préparer son interview.
Ouais.
J'ai une méthodologie d'interview, hein, on va essayer d'aborder cet après-midi. Et bon, en vrai, on n'aura pas le temps, là, c'est un peu
long.
Mais j'ai le document, vous verrez. Mais l'interview, si tu veux mettre à l'aise la personne, il y a un temps, il y a le début, c'est des questions un peu formelles, etc. Tac,
ah oui, donc
à l'aise. Et puis, tu as une progression dans l'interview. Et nous, ce qui est important, c'est toujours ce qui est le plus important, ça arrive à la fin. Et ça va être un peu ton tard. Le cœur d'interview, là, ça va être la fin. D'ailleurs, au montage, des fois, après, tu coupes hein, des blocs qui t'ont juste servi à mettre la personne à l'aise. Hein. Tant pis pour... Enfin, voilà. Bah, on coupe, on garde que le meilleur. Et, mais il faut aller, il faut dire à la personne, allez, viens, dis-moi ce que... Enfin, voilà. Parle-moi.
C'est ça. C'est vraiment... Et après, tu vas voir les gens... Bon, il y en a, c'est niette. De toute façon, c'est une tu sais qu'ils ne voudront pas, ils ne veulent pas le micro, ils ne veulent pas te parler, les journalistes sont tous des vendus, le micro, ça fait peur, donc ça sera non. Par contre, à partir du moment, et t'en as, ils vont te dire, oh non, ça me gêne, et quand tu vois qu'ils sont comme ça, tu te dis, ok, déjà, tu peux essayer.
Ah, non,
voilà. Mon préféré, c'est,
oh,
j'ai rien à dire.
Oui, c'est ça. Non, ça veut... Ou non, j'ai rien à dire d'intéressant, tu dis, ah bon, ben, je sais pas, voyons.
Ça, c'est
ouais. Oui, oui, oui. Il faut prendre un peu le temps. Et la difficulté avec le micro-trottoir, ça va être ça, c'est que c'est court, en fait.
Oui, c'est,
et on veut... Et on a une question souvent un peu... Alors, ça peut être des questions super ciblées. Normalement, un micro-trottoir, c'est... j'ai une question très ciblée sur... et j'ai une question que je vais poser à 4-5 personnes, et ça sera la même.
Ça ressemble à un sondage.
Ouais. Alors, ça ressemble à un sondage, sauf que ça n'a pas une valeur de sondage, parce que... Parce que voilà, il n'y a pas de panel, c'est juste des gens pris au hasard. C'est la vox populi, quoi. On est là, on va voir ce que pensent les gens sur un sujet donné. Donc il faut leur dire, voilà, je suis... Alors là, en plus, vous êtes en exercice et ça, ça met les gens à l'aise souvent. En disant, je fais une formation en radio, on fait un exercice de micro-trottoir. Est-ce que vous voulez bien répondre à cette question ? Donc déjà, on n'est pas dans la posture officielle. Donc ça va bien aller. Faut pas arriver, on rentre tout de suite. Faut pas arriver en leur disant tout de suite le micro sous le nez, quoi. Par contre, tu l'as à la main, qui voit ton intention. Enfin, moi, je trouve que c'est bien de pas arriver masqué, quoi. On se cache pas en disant tout d'un coup, ah, tu veux bien me parler, tiens. il faut, il y a la posture d'aller vers l'autre, quoi. On est dans une relation honnête, quoi, ouverte. Et donc on a le micro à la main, on se présente, ils savent ce qu'on attend d'eux. Et s'ils nous disent ah non, j'ai rien à vraiment raconter, ah bon, mais ben, ça, vous êtes sûr, ben, pourquoi vous êtes là, on peut prendre 2-3 minutes, alors on n'a pas, vous allez avoir du temps pour le faire, mais on peut prendre un peu de temps quand même pour discuter avec les gens, et tant pis si on perd 5 minutes et qu'ils ne nous répondront pas, mais au moins on a tenté le coup, on a déjà créé une relation, on est allé voir si la personne, il faut la sonder quoi, il faut aller voir, vraiment il faut aller vers les gens et ne pas se fier aux apparences. Surtout ne pas se fier aux apparences. Même des gens, vous dites, oh là là, ça ne va pas le faire. Ben si, justement. Allez-y. Et essayez d'aller voir. Tous les âges, tous les looks, et sans a priori. Même si on se dit que ce n'est pas quelqu'un qui va être concerné par notre sujet, ben, des fois, on a des surprises.
Et nous, justement, pour l'exercice tout à l'heure, pour ça me permet de rebondir, donc, on va aller faire... deux types, parce que le montage du micro-trottoir, c'est quelque chose de très particulier, parce que c'est très répétitif, donc ça peut vite être chiant à l'écoute. Donc il va falloir, alors moi en général, ce que je propose, c'est vous faites, par exemple, alors vous avez le choix, je vais vous proposer deux types d'exercices. C'est soit le micro-trottoir d'opinion, avec une question ouverte, on va essayer, vous verrez, vous allez choisir votre sujet. C'est plutôt anonyme, hein, enfin,
c'est anonyme,
la personne peut se présenter, mais vous allez le couper au montage de façon. Voilà. Vous allez poser une question ouverte et après on va enchaîner les réponses. Ça va vous donner comme ça un petit aperçu là, du comme tu disais, Vox Populi. Voilà. Après je vais vous proposer un autre exercice parce que je sais que c'est un format qui est à la mode, c'est plus à la brute. C'est-à-dire nana ou nana. Et là, on balance, ça se monte très 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 vite. Ça peut justement, au niveau de la forme, être très original. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu peux même enlever ta question, tu mets que des petits bruits. Et c'est vraiment, ça se monte en mode, c'est quelque chose de très rapide, très dynamique. Moi, je trouve que c'est un bel exercice de montage. Oh là là, des questions pas trop engageantes. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein, vraiment. Ouais, on n'est pas sûr de. Et encore, des fois, il y a des très belles choses. Alors, le dernier en date, j'avais quelqu'un qui posait la question Mozart ou Beyoncé. Pourquoi ? Paf, et t'en vois. Et tu gardes les pépites. Il y a une dynamique d'humour là-dedans. Enfin, tu gardes les pépites. Voilà, c'est un peu ça que je vais vous proposer ce matin pour être dans un exercice qui libère la créativité. On y va. Vous pouvez interviewer vos collègues pour démarrer. Mais après, c'est bien d'aller aussi vers des. C'est un exercice pour les timides qui. Et puis ça fait peur. Moi je le fais beaucoup avec les ados parce que ça te demande à réfléchir à sa posture, comment tu viens pas vers les gens que tu connais pas. Et alors des fois je peux vous dire que c'est l'impolitesse, elle n'est pas du côté des ados, hein. D'autre côté, tu veux voir. Mais c'est intéressant de voir aussi le regard qui est renvoyé quand on fait de l'EMI et que tout d'un coup tu es à la place du journaliste, ce genre de choses, ça te montre bien aussi comment les gens réagissent face au micro, aux médias. C'est parfois mal perçu, mais pour une avec personne les, qui va mal le percevoir, tu vas avoir 8 ou 10 personnes qui seront super contentes de le faire.
Oui, ça dépend des thèmes, du contexte. Mais oui, on se fait maltraiter, ouais.
Oui, ça doit exiger quand même de savoir prendre sur soi, même aussi quand tu te retrouves face à quelqu'un qui te balance une opinion ou tu as envie de lui répondre.
Oui. Toi, tu es un récepteur, en fait. Il faut que tu ailles chercher les gens. Et donc, tu es en position d'ouverture, mais tu es un récepteur. Et bon,
tu dois tout entendre.
Tu gardes ton opinion. Après, c'est le boulot du journaliste, mais tu peux réagir, reposer des questions, essayer de creuser le pourquoi du comment, on va voir des choses. Mais bon, ça, c'est dans les interviews. Tu peux
pas l'installer dessus parce que l'accueil dans un service public.
Oui.
aussi, de toute façon,
à
partir du moment où tu es en relation avec les gens.
Parce que vous tournez sur tous les postes, vous, à peu près.
Ouais.
C'est ça, hein. Vous faites tous et toutes un peu d'accueil.
Oui, on fait tous de l'accueil. On se rend toujours au même endroit. Mais...
Ouais. Bah, c'est l'endroit où c'est les bénéfices, c'est ça, c'est l'approche.
Des bonnes et des mauvaises.
Proposer une information, aider les gens, tout ça. Alors que là, on est là. Enfin,
Oui, mais tu donnes la parole et les gens, ils aiment bien s'exprimer. Enfin, c'est étonnant. Des fois, il y a des gens vraiment, ils ont. Il y a des gens, ils chopent le micro, quoi. Et ils ont le truc à dire. Et c'est comme. Tu sais, souvent, les gens, ils râlent, ils disent ouais, les médias pénibles et tout, tous des menteurs, voilà, la télé. Voilà. Tu vois le nombre de gens qui font les cliquer derrière les caméras parce qu'ils veulent absolument passer à l'image. Alors après, c'est les premiers à cracher sur la télé, mais par contre, il y a une caméra, c'est un aimant, quoi. Ils viennent. Et le micro, c'est pareil, c'est un aimant. J'ai quelque chose à dire, je veux témoigner. Surtout, on est quand même dans une période où tout le monde a quelque chose à dire. Donc oui, les gens, ils viennent. Hein.
Parce qu'avec l'Internet, on est sorti du mass-média, et maintenant, on est des médias de masse. Tout le monde est média, un peu. Donc, c'est à cet endroit-là aussi que c'est intéressant. Ouais. Enfin, voilà, les gens prennent la parole.
Et donc, voilà, les difficultés, c'est plus de les cadrer.
Ouais.
une fois que le pas, il est fait, donc il faut faire le premier pas, il faut aller vers eux, il faut les convaincre de nous parler. Mais une fois que ça s'est fait, le plus dur, ensuite, c'est de les cadrer, quoi.
Justement, comme maintenant tout le monde est média, il y a des opinions de partout, il y a des infos de partout.
C'est pour aujourd'hui, je pense qu'il faut parler. Enfin, moi, en EMI, je parle de culture du doute. Il faut être capable de douter, aller croiser ses sources en permanence, parce qu'en fonction du média, de savoir, une personne qui parle en son nom propre, ça reste une personne qui parle en son nom propre. Une information sourcée d'un média officiel. C'est comment distinguer l'information de l'opinion.
Oui, c'est en fait, nous, on parle d'esprit critique de plus en plus aujourd'hui, c'est de dire aux gens, en fait, face à une info, posez-vous la question qui me parle, d'où, pourquoi.
Et est-ce que ça complique pas le travail de journaliste, du coup, parce qu'on dit tellement aux gens, méfiez-vous de ce que vous entendez, est-ce qu'ils n'en viennent pas?
Après, t'as t'es censé bien faire ton boulot, mais quand tu dis les gens à se méfier, quand tu vas leur recueillir leurs paroles, oui. Des fois, ils sont là, récemment, quelqu'un qui me dit, ah tiens, voilà les merdias, j'ai rien à te dire. De toute façon, ça va être n'importe quoi. J'ai dit, super. Ben, je dis, en attendant, les médias, je suis la seule qui est là, donc peut-être pas intérêt à me parler. tu vois, c'est... Il faut aussi... On est quand même des professionnels. On est là pour aller chercher l'info. Et souvent, les gens qui ont une attitude hostile, ils vont pas... C'est ceux à qui on donne peut-être le moins la parole. Et du coup, toi, t'es là, et t'es là justement pour l'expliquer que si t'es là, c'est que tu fais ton boulot.
Pour un auditeur lambda, c'est difficile de faire le tri entre la chronique, le billet, quelqu'un qui parle en son nom sur Internet.
C'est pour ça qu'il faut essayer de. C'est pour ça que c'est important de savoir comment ça marche. Ouais.
La couleur qui est quand même.
C'est pour ça que c'est important que l'éducation aux médias, ça te permet de savoir qui te parle, d'où il te parle et avec quelle intention. Et donc, en reconnaissant le média par lequel tu as envoyé le message, par lequel la personne te parle, est-ce que c'est un média officiel, est-ce que c'est une institution, est-ce que c'est quelqu'un de lambda qui a fait sa petite chaîne YouTube, quelle intention, est-ce que c'est vrai que là, les formats, ça compte un peu, est-ce qu'on veut te raconter une histoire qui est fantastique, qui est imaginée, est-ce que c'est... relater des faits réels, faire une analyse. Mais c'est, du coup, on en fait de plus en plus de l'AMI. Enfin, c'est vraiment pour ça que c'est fondamental.
Mais que ça démarre tôt, qu'il faut démarrer tôt avec les jeunes.
Parce que... Il faudrait le faire avec les vieux aussi. Mmh. Moi, je m'aperçois que les seniors, c'est assez dramatique, quoi. Parce qu'ils pensent que comme ils ont l'expérience de la vie, ils ont la maîtrise. de tout et ils sont complètement dépassés quoi. Enfin pas tout le monde hein, mais il y a des gens qui ont aussi un regard critique et une expérience, une approche critique.
Il y a un article scientifique américain, je pourrais vous trouver des références, qui avait indiqué que les plus de 65 ans diffusaient 6 ou 7 fois plus de fausses nouvelles que les autres.
Ouais. Oui, c'est
un élément que j'aime bien sortir quand on dit il faut faire de l'AMI pour les enfants. Je pense qu'il y en a.
Parce qu'après, c'est pas les enfants éduquent les adultes.
Mais n'empêche qu'il faut arrêter de dire que c'est les jeunes qui sont sur leur téléphone qui font n'importe quoi.
Non, parce que c'est eux, les seniors, ils diffusent beaucoup de choses.
C'est vrai la référence.
Vous pouvez mettre sur le trio, si vous voulez, vous pouvez
tranquille.
Jamais sur le traîneau. Et je vous enverrai aussi dans ces cas-là en frontal une étude affreuse qui a été faite sur les jeunes en disant qu'ils étaient je vous enverrai un truc qui fait réponse. J'ai perdu l'institution. J'aurais ça trouvé quelque chose d'horrible sur les jeunes.
Ouais.
Qui colportaient tous les complots, qui ne croyaient plus du tout dans la formation officielle et qu'en gros, c'était des complotistes en puissance. Rapide comme analyse quand même.
Oui, oui, oui. Et là, récemment, il y a The Conversation, le journal que vous connaissez, peut-être, qui est des scientifiques qui relaient des études. Conversation.
Ah oui, oui, The
Conversation. Qui a fait une série sur les jeunes aussi. Pareil, je vous l'enverrai. C'est pas mal.
Oui, c'est pas mal, The Conversation. Pour les... Bon, je ne lis pas tout, mais...